IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Mario.
Trois gros sujets aujourd'hui. Commençons par ce qui se passe dans le nord dans le nord de l'Ukraine, où on a l'impression vraiment là, que ça, c'est un coin où les Russes sont en train de reculer, entre autres autour de Kharkiv.
Kharkiv, qui est la deuxième plus grande ville d'Ukraine, et on est en train de voir le même pattern, ou à peu près, le même genre de comportement qu'on a vu autour de Kyiv. Et ça pourrait laisser entendre que c'est des très bonnes nouvelles pour les Ukrainiens. On se souvient, Kyiv, l'armée russe avait fait une avancée très importante, était en train de prendre le contrôle de la ville. Puis à un moment donné, il en avait comme trop pris. Et là, il avait été obligé de reculer tranquillement pour dire, ben là, finalement, on va se concentrer sur l'Est. Ben dans l'Est, il y avait évidemment le Donbass. Au nord du Donbass, c'était Kharkiv. Et là, Les Ukrainiens sont en train de faire des gains. Là. Ils grignotent, ils avancent. Ça se fait quartier par quartier, des fois coin de rue par coin de rue. Mais là, ils sont en train littéralement de reprendre Kharkiv. Et là, on ajoute un troisième épisode comme ça, qui est autour de Donetsk. Alors, il y a deux grandes villes dans le Donbass. Alors, le Donbass, c'est dans l'est du pays. Les deux Sevdieux, c'est la région de Donetsk et de Luhansk. C'est un pôle russophone. C'est vraiment le cœur de l'industrie lourde, les aciéries très importantes, mais surtout le charbon. Et d'ailleurs, moi qui suis allé quand même... Là,
pour tes voyages en Ukraine, t'es allé jusque dans le Donbass?
Oui, d'ailleurs, c'était ma première fois en Ukraine. Les gens, après avoir fait ma formation à Kyiv, on reçoit chacun nos assignations, et moi, je vois que c'est Donbass. Puis là, je demande un peu aux gens autour de moi. Les gens me disent, tu t'en vas au cœur de la bête. Parce qu'il y avait déjà là des manifestations beaucoup plus proches de la Russie. Alors, et quand tu ouvres la porte du véhicule, là-bas, les gens, beaucoup, surtout dans les maisons moins fortunées, ils chauffent au charbon. Alors, vous imaginez le niveau de pollution, c'est assez extraordinaire. Et là, tu ouvres la porte de la voiture, et ceux qui ont déjà respiré là, de la poussière de charbon vont comprendre. Ça rentre dans les narines immédiatement, là.
Alors, ils chauffent pas à l'électricité, puis l'électricité est produite avec du charbon. Le charbon est dans la maison. Ils chauffent au charbon dans la maison.
C'est pas tout le monde, mais dans les maisons les moins fortunées, tu mets du charbon dans le poêle, littéralement. Alors, wow. ça fait spécial. Alors, j'avais un peu l'impression de vivre Germinal, mais c'est quand même des pôles urbains et industriels très importants, historiques d'ailleurs pour cet espace Russie et Ukraine. Et ces deux pôles-là sont les deux chefs-lieux qui avaient envahi l'armée russe sans leur drapeau en 2014. Ça fait longtemps, là. Et cette guerre-là entre les Ukrainiens et les Russes se passe en russe parce qu'on parle russe dans ce coin-là. Et récemment, Vladimir Poutine avait reconnu l'indépendance des territoires autonomes. Alors, on est en plein dans ce qui était le plus stratégique ou le plus évident pour Vladimir Poutine dans sa conquête de l'Ukraine au départ. Bien là, on apprend que l'armée russe est en train de se retirer de la région de Donetsk, de la ville de Donetsk, pour se concentrer sur l'autre grande ville, Luhansk. Et là, bien, c'est sûr que ça envoie comme message que ça peut pas très, très bien aller si tu es toujours en train de te retirer pour concentrer tes forces. Et d'ailleurs, les chiffres commencent un peu à percoler. On en avait parlé, les estimations des pertes russes est très, très importante. Là, on estime, et c'est selon le renseignement britannique, qu'environ le tiers des troupes russes engagées en Ukraine sont maintenant considérées comme des pertes. soit ce sont des morts, des blessés, faits prisonniers, bref, hors combat. Perdre le tiers de ses troupes en 3 mois, c'est pas dans la colonne des victoires militaires, là. Et je rappelle que là, on parle de les estimations les plus crédibles. On parlait au début entre 7 000 et 15 000. Là, on se situe entre 10 000 et 20 000. Et je rappelle qu'en 10 ans, les Russes ont perdu 15 000 soldats en Afghanistan. Là, ça fait que 3 mois que ça dure, cette chose-là. Mais là, le retrait des Russes, il faut pas, c'est pas une hirondelle qui fait le printemps. Souvenez-vous combien il y en a qui pensaient que lorsque les troupes russes se retiraient des alentours de Kiev, qu'on pensait, bon, ben les Russes vont rentrer chez eux tranquillement. Demain, là, préparer la photo, le photo-op pour la signature des accords de paix. Ce qu'on a vu après ça, c'est la destruction totale de Mariupol. Ce qu'on a vu, c'est des bombardements à Odessa. Il faut pas voir là-dedans le grand revirement, mais chaque jour qui passe, on constate que les Ukrainiens font un peu plus de gains que la veille, puis les Russes ben, semblent concentrer leurs forces sur moins grand. Alors, là-dessus, on va garder le proverbe russe, le vérifier d'abord, mais ça semble être, en tout cas, une série de jours très positifs pour l'Ukraine, et on va attendre encore quelques jours pour voir l'étendue du repositionnement ou des victoires, parce que la ligne de front se déplace beaucoup, des fois à l'avantage des Ukrainiens, des fois à l'avantage des Russes.
Ce matin, dans mon émission à LCN, j'ai fait une présentation sur McDo qui quitte la Russie, mais en l'accent notamment sur 1990. T'sais, j'avais 20 ans, on dit j'avais 20 ans, là, c'est vraiment le cas. C'est McDo qui rentrait en Russie quelques mois ou un an, je sais pas combien, après la chute du mur de Berlin, la perestroïka, Mikhail Gorbatchev, le rideau de fer qui tombait, les Russes qui fêtaient l'arrivée de McDo, c'est pas tellement parce que c'est bon pour la santé ou parce que je suis capote sur McDo, mais c'est des symboles forts d'un monde plus uni où tu te dis les guerres sont finies. Là, une fois que McDo installe des restaurants en Russie, mais les Américains ils bombarderont pas des McDo. C'est comme une image qu'on se faisait d'un nouveau monde là. C'est un peu comme ça là, que je voyais l'annonce aujourd'hui de McDonald's de dire ben là c'est fini Nini, on vend les friteuses puis les chaises à perte puis salut, on retourne pas là.
Ça aura duré 32 ans, mais ouais. C'est vrai que c'était le symbole des symboles imaginés parce que c'est plus que juste un restaurant de cuisine rapide qui s'installe dans une capitale importante, là. Vous aviez un empire, l'Empire soviétique, qui était dédié à une lutte à finir avec son antithèse, le modèle de la démocratie libérale et de l'économie de marché. C'était littéralement le démon. Ça aura duré 70 ans, et à la fin, c'est McDo qui s'installe pas n'importe où, dans la capitale à Moscou, et pas n'importe où à Moscou, sur la place Rouge.
Oui, puis il y a tellement de monde, ils ont fait des burgers, je me souviens pas de tout dire, mais à la mémoire, mais ils ont fait des burgers quasiment toute la nuit, parce qu'ils ont pas voulu décevoir les gens qui étaient venus, il y avait du monde à perte de vue, et quand l'heure de fermeture est arrivée, c'était encore full de monde. Fait tu sais, ça a été un événement, tu sais, marquant quand même, le succès, l'enthousiasme, mais tu sais, c'était bon enfant, le monde était de bonne humeur, mangeait du McDo, là, c'est assez inoffensif, mais c'était plein de symboles, là.
Beaucoup de symboles. Un symbole qui nous a aveuglés, ou plutôt aveuglés les Occidentaux, c'était de penser, bon ben là, les Russes ont renoncé au soviétisme, ils ont renoncé au communisme, nous allons maintenant les accueillir dans leur volonté libérée d'entrer dans le modèle de la démocratie libérale et de l'économie de marché. Et ce qu'on a oublié, c'est que les Russes ont rejeté le soviétisme, mais ils sont restés Russes. Et là, ben, c'est un peu ce qui arrive. Puis dans l'histoire millénaire de la Russie, c'est toujours le triptyque, une direction politique autoritaire, quelques-uns qui possèdent presque tout, et un modèle extraordinairement conservateur orthodoxe. Mais donc, le McDo, et il faut le reconnaître, le McDo, le 8 mars, ça faisait 2 semaines à peine que l'invasion avait commencé, avait suspendu ses opérations, ferme tout. Là, les pertes sont gigantesques. Et d'ailleurs, Starbucks, Poulet frit Kentucky, Pizza Hut, pour l'anecdote, Mikhail Gorbatchev a fait des pubs pour vous dire à quel point le modèle soviétique s'est effondré. Hein, vous avez des pubs, d'ailleurs, tapez ça dans YouTube, là, Gorbatchev, publicité, Pizza Hut, et c'est assez bien fait. Mais là, la pression était trop grande. McDo vient d'annoncer que là, il quitte complètement le territoire de la Russie. Ils vont essayer de vendre l'ensemble des actifs. C'est pas clair encore à qui. C'est pas clair pour quel prix. Mais vraiment, là, à l'Assemblée des actionnaires, là, préparez-vous à entendre deux mots, là, write-off, on en avait parlé. Oui. Il va y avoir une méga radiation. L'estimation la plus précise que j'ai vue, on parle entre 1,2 et 1,4 milliards de dollars.
Alors, c'est pas exactement... effacé au livre, là.
Effacé au livre.
Puis ça, ce que je comprends, c'est que ça inclut pas les pertes là, de ne pas avoir opéré, là, des pertes de revenus, d'avoir été fermé ces derniers mois. Là. C'est vraiment la perte de la valeur des actifs puis tout ça. Là.
La perte de la valeur des actifs, donc c'est une méga perte financière et ça va rester dans la tête des investisseurs pendant longtemps. Et il y avait, c'est essentiellement une considération réputationnelle parce que McDo vend pas des burgers, ils vendent une expérience, ils vendent une identité, ils vendent une image. Comme client, moi, personnellement, je consomme pas dans des compagnies installées en Russie. Comme employé, il y a un manque de main-d'œuvre. Ça veut dire que soudainement, l'employé, là, acheté, c'est voté, mais je peux aller travailler chez le voisin, là. Et là, c'était un problème pour McDo de dire, venez travailler chez moi, je suis un bon citoyen corporatif, mais en même temps, je fais des burgers à poutine. Ça passe moins bien. Et évidemment, pour les actionnaires, c'est, est-ce que j'ai le goût, moi, comme PDG, d'aller me pointer une assemblée d'actionnaires puis de me faire ramasser, à un moment donné, de dire « OK, on s'en va ». Et là, c'est annonciateur de d'autres.
Mais c'est ce que j'allais te poser comme question. Je veux dire, quand McDo dit « faire des affaires en Russie, c'est fini », on se garde même pas des installations au cas où, là, on liquide tout. McDo changera pas d'idée dans 3 ans, puis tout racheter, puis tout reconstruire, puis tout refaire. Là. Ça veut dire que pour une longue période, McDo et tous ceux qui vont limiter, puis pour être nombreux, c'est une coupure de faire des affaires avec la Russie, mais pour la Russie, c'est majeur là, comme capacité d'accueillir des investissements étrangers.
C'est majeur, et là, en plus, souvent, il y a un peu de politique dans l'investissement. Par exemple, si tu fais des grosses pertes, ben là, tu cherches un comme toi qui a fait des pertes aussi, donc c'est moins grave. Alors là, c'est comme si, là, c'est le temps de faire de la radiation à cause de Vladimir Poutine. On en avait parlé, les pétrolières commençaient à sortir, mais là, c'est Shell qui vient de dire, OK, nous, on sort, on a vendu tout notre réseau de stations-service, évidemment, ils ont laissé beaucoup d'argent sur la table, ils vont faire une radiation d'à peu près 4 milliards. Société Générale, qui est une grande banque française, eux aussi viennent de quitter. Ils ont annoncé une perte de 3 milliards dans leurs revenus. Et là, le dernier en lice, c'est un géant automobile. Ça, c'est des jobs. Renault s'en va. Et là, c'est un peu particulier parce qu'eux, ils étaient actionnaires à plus du 2/3 dans l'espèce de méga conglomérat automobile russe. 350 000 véhicules par année, la dernière année. 12% du marché russe. Le nombre d'employés, 45 000. Et là, ils disent, nous, on s'en va, on vous souhaite la meilleure des chances. Ils ont vendu ça pour une somme de 1 rouble. Alors ça fait vraiment pas beaucoup. Et en échange...
C'est un write-off, ça aussi, au livre, là.
Ben là, eux, ils sont gardés une petite possibilité dans leur poche d'en arrière, c'est-à-dire la possibilité de racheter leur participation...
Dans 6 ans, c'est ça?
6 ans.
Ouais.
Fait que c'est pas sûr que ça va arriver, mais disons que ça va peut-être aider à faire passer la pilule. Et là, il y a quelque chose qui va un peu forcer le jeu ou convaincre les compagnies qui sont pas encore sorties de la Russie de se dépêcher, parce que le Parlement russe est en train de voter une loi sur la nationalisation des compagnies de pays qu'on n'aime pas. Alors, en gros, ça veut dire que l'État russe pourrait dire demain matin, tout ce qui était à toi sur mon territoire, c'est à moi. Évidemment, oublier la compensation. Fait que t'es peut-être mieux de vendre pour une bouchée de pain que de rien avoir du tout. Mais même si les Russes reprenaient, que ce soit les raffineries, les usines d'automobiles, etc., tu perds les chaînes d'approvisionnement, la chaîne de distribution, la recherche et le développement. Il n'y en a plus aujourd'hui de compagnies qui vivent là dans une espèce d'éprouvette coupée du monde. La preuve, c'est que même les Lada, les voitures russes qui étaient faites par Renault, des pièces pour les Lada venaient de Hongrie. Fait que même les Lada, ils sont plus capables d'en faire avant qu'ils soient capables de repartir tout ça. Ça va être très long. Et on peut imaginer que, en gros, là, la Russie est en train de transformer son économie à l'image d'une Lada.
Et finalement, dans la série de choses qui se sont pas produites exactement comme dans le scénario prévu pour Vladimir Poutine, à la base de son plan, c'était d'éloigner l'OTAN de ses frontières et de dire là, l'Ukraine qui embarque dans l'OTAN ou qui songe à embarquer dans l'OTAN, il n'y en est pas question, on veut pas d'OTAN à nos portes. Ben là, la Finlande et la Suède qui joignent l'OTAN.
Oui, et là-dessus, tous ceux qui ont fait de la politique doivent se dire, il est vraiment chanceux, Vladimir Poutine, de ne pas avoir besoin de se pointer à une période de questions au Parlement, parce qu'il ferait chaud, là. En gros, il se ferait dire, tu fais quoi de tes journées, là? Là, le temps est plus fort que jamais. Et là, c'est intéressant parce que...
Oui, plus forte et plus à nos frontières, là. Parce que la frontière Finlande-Russie, c'est 800 kilomètres, un immense bout de frontière, là.
Et ça vient complètement un peu boucler vers le nord l'accès de la Russie et ça vient un peu la boucler complètement là dans la mer Baltique. Donc l'accès vers la mer au nord est beaucoup plus compliqué pour la Russie. Et là, ben pour accéder à l'OTAN, là tout le monde, là, c'est le festival de on a hâte qui arrive, là, mais il faut que tout le monde dise oui. Et là, dans tout le monde dise oui, c'est à l'unanimité qu'on accepte les nouveaux membres. Il y a la Turquie. Et là, la Turquie hésite un peu. Bon, d'abord parce qu'ils dansent sur la ligne avec leur amitié avec la Russie, mais aussi parce qu'en Finlande et dans les pays de l'OTAN ailleurs, on aime beaucoup les Kurdes, qui sont des alliés de l'Occident plus souvent qu'autrement. Et la Turquie, elle, dans ses temps libres, massacre les Kurdes. C'est pas chic, là. Alors là, il va y avoir un peu de tordage de bras, mais j'imagine l'appel de Joe Biden à la Turquie en disant « J'espère que tu nous causeras pas de troubles. On est bien gentil de tolérer tes manœuvres plus ou moins démocratiques envers ta minorité kurde, sans parler des Kurdes de l'Irak. » Mais on peut imaginer que la Turquie, là, chiale un peu. Il y a un peu là-dedans pour le show, pour montrer à Vladimir Poutine qu'on n'est pas complètement, que les ponts sont pas complètement coupés. Mais on peut imaginer un vote unanime très bientôt.
Guillaume, merci. À demain.
Au plaisir.